Alors, c'est un extrait de Backstage at Carnegie Hall, pardon, qui sera présenté en première mondiale les 23 et 24 septembre au théâtre Centaure en anglais avec surtitres français et anglais. Le livret est d'Audrey Dwyer et la musique de Tim Brady, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Tim Brady.
Bonjour, c'est une façon superbe de commencer cette entrevue, il faut dire.
Ah, bien, tant mieux si ça vous fait plaisir, vous, le musicien, oui, qui avez le sens du rythme. On essaie aussi d'être rythmé dans cette émission. Ouais. Et Tim Brady, comment vous présentez Backstage at Carnegie Hall?
Bien, c'est un projet qui me tient à cœur. Je travaille sur le projet depuis 6 ans. Et l'essentiel du projet est la rencontre de la création opératique actuelle, mes histoires personnelles et un traitement assez approfondi de la question du racisme. Donc essentiellement, on prend deux figures historiques, Charlie Christian, guitariste jazz, et Benny Goodman, clarinettiste jazz, qui existaient réellement, qui ont vécu, qui ont travaillé ensemble, qui ont donné un concert vraiment remarquable et très reconnu en décembre 1939 à Carnegie Hall. Et c'était une des premières fois que des musiciens noirs de jazz et des musiciens blancs de jazz jouaient ensemble. Parce qu'évidemment, en 1939, la ségrégation aux États-Unis, même au Canada, était malheureusement assez renforcée. Donc, on a pris ça comme point de départ. Qu'est-ce qui se passait en arrière-scène, en coulisses, entre ces musiciens? Puis, Audrey Dwyer, mon librettiste, a concocté une histoire fascinante avec le voyage dans le temps. On regarde le racisme en 2014, en 1902, en 1926. C'est quoi le track de musiciens avant qu'ils rentrent sur scène? C'est quoi les problématiques de relations entre les musiciens, entre les races? C'est assez approfondi, mais Audrey, je veux dire, a fait un livret absolument extraordinaire qui m'a donné beaucoup de possibilités musicales.
Et Backstage at Carnegie Hall, qui est une salle de concert mythique de New York, ouais. Le spectacle est décrit, l'opéra est décrit comme un opéra de chambre. Qu'est-ce que c'est un opéra de chambre, Tim Brady?
Ben, c'est assez facile à comprendre. Musique de chambre, ça veut dire musique avec moins que 12 musiciens sur scène. Okay. Nous autres, on est juste 4 musiciens sur scène. Un clavier, un violon, un clarinet de basse et une guitare électrique. Mais par contre, tout le monde est amplifié. L'esthétique, techniquement, la sonorité sonne un peu plus théâtre musical. Parce que c'est un petit ensemble, c'est pas un orchestre symphonique, mettons. La différence, c'est qu'on n'est pas un orchestre symphonique, donc on n'est pas comme l'Opéra de Montréal. Mais sur musique de chambre, ça veut dire qu'il y a juste 4 musiciens. Mais, comme vous avez entendu avec l'extrait qu'on vient de jouer, avec un tout petit peu de l'utilisation de la technologie, on peut quand même faire bouger de l'air avec nos 4 musiciens.
Et cet opéra fait partie d'un cycle de 4 opéras appelés Hope. Est-ce que ça signifie que l'histoire qui est racontée dans le spectacle, l'opéra qu'on va pouvoir voir les 23 et 24 septembre, aura une suite?
Oui, vous demandez une excellente question. C'est ma folie suprême. mon plan est de composer 4 opéras, tous reliés par le même personnage, qui est une voyageuse temporelle. Honnêtement, le projet avance super bien. Le deuxième opéra est déjà terminé et la production va être en 2024, puis le troisième est déjà commencé. L'idée, ce qui me fascine avec tout ça, ce qui me fascine avec l'opéra, j'adore écrire pour la voix, j'adore travailler avec les librettistes, mais surtout, c'est un opéra dure 90 minutes. Comme compositeur, je peux créer et décrire tout un univers sonore qui va comme être une expérience sonore immersive de 90 minutes, pas juste de 2-3 minutes, mais vraiment un événement vraiment immersif. C'est ce qui me fascine le plus avec l'opéra, le côté expérience humaine.
Est-ce que vous allez aussi participer à la partition aux autres opéras du cycle de Audrey Dwyer? Est-ce que Audrey Dwyer sera avec vous pour les autres opéras?
Une excellente question. Non, les autres opéras traitent d'autres sujets. Audrey est super, mais j'avais le goût de travailler avec plusieurs librettistes. Donc, il y a Mishka Lavigne, qui est une écrivaine québécoise très connue, Alexis Diamond, qui est un Montréalais très connu, et Yvette Nolan, qui est une écrivaine du Saskatchewan, qui va faire l'autre livret, le dernier livret.
Et la guitare électrique et l'opéra, il me semble qu'on ne voit pas ça souvent. Est-ce que vous pensez que les amateurs d'opéra vont en prendre plein les oreilles et vont être un peu déstabilisés?
Ben, c'est une excellente question. Ce que je cherche idéalement, bon, d'abord, je joue la guitare électrique depuis 54 ans, donc c'est le seul instrument que je joue assez bien pour me présenter professionnellement, oui. Donc je n'avais pas grand choix. Mais ce que j'espère, que c'est que nous allons bâtir un pont entre la communauté qui s'intéresse à la guitare électrique, au jazz, au rock, etc., qui vont venir pour voir la guitare électrique, et parce que Charlie Christian est vraiment emblématique et iconique dans le monde de la guitare électrique. Et les mélomanes qui aiment l'opéra, qui veulent voir le théâtre musical, qui veulent plonger dans cet environnement immersif. Donc, mon idéal, c'est que la communauté de la guitare vont découvrir l'opéra et les gens de l'opéra vont découvrir les possibilités de la guitare électrique. Mon désir est d'élargir les horizons.
Est-ce que ça a été compliqué, Tim Brady, d'associer la guitare électrique et l'opéra?
Non, pas du tout, parce que d'abord,
vous aviez du métier,
ouais. J'ai du métier, mais également parce que ce qu'il faut faire, l'opéra, évidemment, on a l'image de l'opéra, c'est l'opéra du 19e siècle européen avec l'orchestre, etc.
Très classique.
Très classique. Mais une fois qu'on laisse tomber les données de l'opéra du 19e siècle, une fois qu'on dit qu'il y a un texte et une musique, à part ça, tout est ouvert, tout est possible, tout est vraiment, rien n'est décrit d'avance. Donc, une fois qu'on laisse tomber des préjugés, c'est-à-dire notre image que l'opéra doit nécessairement avoir un orchestre symphonique, tout devient possible.
Et parlez-moi un peu du guitariste jazz Charlie Christian, qui a eu une courte vie, mais qui a laissé des traces.
Oui, Charlie Christian, et ce qui me fascine avec Charlie Christian et l'histoire de la guitare électrique en général, c'est que la guitare électrique, c'est un instrument de musique relativement neuf, c'est-à-dire que la date officielle de naissance de la guitare électrique, c'est normalement mis en 1932. Donc, parce qu'à l'époque, en 1932, les enregistrements audio existaient, la photographie existait. Donc, nous avons des traces exactes de toute l'histoire de l'instrument. Donc, on connaît que littéralement, la première personne à devenir grand soliste de la guitare électrique était Charlie Christian. C'est pas une soupçon, c'est pas une rumeur, c'est documenté. Donc, tous les gens qui jouent la guitare électrique, on sait exactement de qui on découle. On découle tout de Charlie Christian. Donc, moi, comme guitariste, ça fait comme plusieurs années que je joue la guitare, et je suis très conscient de ce lien historique. Puis de lui rendre hommage est assez important pour moi.
Son histoire n'avait jamais été racontée?
Pas dans l'opéra, ça c'est garanti. Dans les cours de jazz et dans les cours de guitare, oui, mais malheureusement, au grand public, il est très peu connu. Il est plus connu par les jazz fans qui sont vraiment accrochés à la guitare électrique.
Alors, on le verra sur la scène incarnée par un artiste. Il y aura aussi Benny Goodman, Orville Gibson. Benny Goodman a fait beaucoup là, pour ouvrir les horizons, pour faire tomber quelques préjugés. Vous disiez qu'il avait été le premier à inviter un artiste noir à faire de la musique avec lui.
Oui, de le faire publiquement, parce qu'à l'époque, dans les années 30, les musiciens jazz noirs et blancs jouaient beaucoup ensemble dans des jam sessions informelles. Mais de le faire publiquement était un défi à cause des préjugés et des lois.
Et est-ce
Donc, Benny Goodman a travaillé très fort avec ce qu'on appelle le Benny Goodman Sextet, son sextoire, qui était trois hommes noirs et trois hommes blancs.
Est-ce qu'il y avait eu un scandale à l'époque?
Je dirais pas scandale, mais à l'époque, quand il faisait une tournée dans le sud des États-Unis, il y avait toutes sortes de problèmes parce que malheureusement, les musiciens noirs n'avaient pas la même permission que les musiciens blancs. Littéralement, Benny Goodman a dû louer une histoire weird, mais ça arrive. Benny Goodman a dû amener son Cadillac de New York parce que les chauffeurs de taxi dans le sud des États-Unis refusaient de prendre les musiciens noirs. Donc, Benny Goodman a dû envoyer sa propre voiture juste pour conduire la bande.
Et c'est... Ça fait mal d'entendre ça, mais au moins...
Oui, mais la réalité, on ne peut pas ignorer. Ça informe ce qui se passe actuellement.
Oui, c'est ça. Vous faites bien de le dire. C'est important de le savoir et de mesurer aussi le chemin qui a été fait et le chemin qui reste à faire.
Ben oui, exactement. Il faut reconnaître les deux côtés.
Et la mise en scène est assurée par Sherissa Richards. Est-ce que c'est une mise en scène classique ou quelque chose d'échevelé? Comment vous pourriez décrire sa mise en scène?
Ben, remarque, on commence la mise en scène demain, donc je peux pas le décrire beaucoup en détail.
Ah bon?
Mais par contre, je suis ça et moi, on a déjà eu quelques discussions. L'essentiel, ce qui est super le fun avec la mise en scène, le plan général de la mise en scène, c'est qu'on a un décor qui est vraiment comme un backstage, comme une coulisse. Donc, quand les chanteurs chantent, ils chantent, puis ils présentent ça au public, mais quand ils sont pas en train de chanter, ils vont apprendre comme acquis qu'ils sont en coulisses, en backstage, quelque part. Donc, leur corps, leur façon de faire, ce qu'ils vont faire, c'est exactement ce que les musiciens et les chanteurs font backstage. Donc, l'idée de la mise en scène, c'est de vraiment jouer avec le fait que il y a une avant-scène, puis une arrière-scène, puis nous allons avoir accès à l'avant-scène, à l'arrière-scène également, simultanément.
Et le public, les spectateurs, là, qui ne parlent pas tellement bien anglais, est-ce que vous pensez qu'ils vont quand même apprécier l'opéra?
D'abord, on espère, mais c'est une des raisons pourquoi nous avons mis en place des surtitres en anglais et en français.
Oui, donc ça va être facile de suivre.
Oui, c'est garanti parce que c'est Montréal, c'est une ville avec une grande population francophone. Oui. Puis évidemment, on veut inviter le plus de monde possible à notre production.
Alors, je rappelle que la première mondiale de Backstage at Carnegie Hall aura lieu les 23 et 24 septembre et ça se déroule au très beau Théâtre Centaure. C'est dans le Vieux-Montréal?
Oui, absolument.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis le mot de Cambronne pour votre premier opéra de 4.
Merci bien et bonne journée.
Au revoir, Tim Brady, compositeur.
Ah ben, Tim, c'est pas le mauvais non plus.
Comment? Tammy Brady, compositeur et guitariste électrique depuis 54 ans. Admirable.
Oui, absolument. Merci bien.